Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de couvre, l'émission de débat autour du manga. Cette émission est la suite de celle de la semaine dernière, donc je vous renvoie à la partie 1 et aux 4 premières minutes pour avoir l'explication, le pourquoi du comment, la réponse au sens de la vie, tout ça. Au programme aujourd'hui, après Daidar, Kasadora et Sakamoto Days, voici le tour de A Journey Beyond Heaven de Masakatsu Ishiguro, de Dandadan de Yukinobu Tatsu et des carnets de l'apothicaire de Neko Kurage, Itsuki Nanao d'après l'œuvre de Natsu Yuga. Et donc je vous propose un jeu sur ces 6 séries en 2023. Classez-les de la meilleure à la moins bonne vente par tome.
Ah, oula.
En moyenne par tome.
Bah, les carnets de l'apothicaire, je dirais que c'est plutôt élevé dans le top. Ça serait parmi les premiers.
Ouais, moi je dirais Dandadan ou Carnet de la Poutiquaire en 1 et 2. Alors ouais. Après, je sais pas dans quel ordre, mais.
Ouais.
Allez, je mise sur Dandadan en 1 et 2.
Non, c'est le Carnet de la Poutiquaire le plus populaire devant Dandadan.
Et en dernier, je dirais.
Journée.
Journée,
mais bon. Et bien, la moins bonne vente. Et entre Sakamoto, Daidark et Asadora.
Sakamoto 3ème.
Ah ouais?
Ouais.
Ah ouais, oui.
Oui.
Asadora 4 et Daidark 5.
Eh bien non, Asadora, non. C'est tellement éloigné maintenant, c'est sorti depuis longtemps que tout le monde
que
a déjà
Daidark
les tomes.
C'est
Daidark. Ouais, exactement.
Maïdon.
Bah, c'est plus récent Daidark en même temps, c'est plus logique. Donc les ventes sont un peu plus concentrées. C'était sur l'année 2023, donc forcément, Asadora, il y a un peu plus de bouteilles derrière. Bon, voilà, c'était un petit jeu pour se mettre en jambes, et c'est parti. Nos séries à suivre, partie 2, c'est dans la cinquième de couve.
Oh, ne pousse pas, s'il vous plaît, on ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires.
Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja.
À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols.
Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir.
On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la tour Eiffel, ils vont rien comprendre.
Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles.
Oh les bâtards. Oh this you crazy
mother. Vous êtes en train d'écouter La Cinquième de Couve, un podcast bien plus amusant que tous les podcasts d'enquête criminelle, par exemple. Non mais c'est vrai, hein, parce que les crimes, c'est vraiment, vraiment pas joyeux, en général.
Oui,
salut merci. Robin, salut Julie.
Salut.
Vous écoutez d'autres podcasts que La Cinquième de Couve? Est-ce que vous écoutez des podcasts d'enquête criminelle?
Non,
pas forcément d'enquête criminelle.
Non.
C'est que mon truc alors.
Bah, faut,
non mais
faut
des fois, t'envoies des liens qui sont vachement intéressants, et j'avoue que des fois, j'ai pas le temps de les écouter en entier, j'oublie d'écouter la fin, ce qui est dommage. Mais non, moi j'aime bien écouter les trucs genre transfert, c'est hyper basique. Hein,
Et toi, Robin?
Moi, le podcast que j'écoute le plus, c'est la cinquième de couvre, parce qu'on réécoute les épisodes à chaque fois avant de les uploader. Non, mais blague à part, moi j'aime bien les trucs un peu comme on fait, mais dans d'autres médiums. Donc, par exemple, j'adore le podcast Fin du Game qui fait un peu ce qu'on fait, mais avec le jeu vidéo. Enfin, ils vont beaucoup plus loin que nous parce que c'est un jeu et ils vont vraiment
analyser,
ils font l'histoire et tout, le making of et tout. Donc, ça, c'est assez passionnant. Et après, j'écoute le Floodcast comme tout le monde, je pense, pour me détendre.
Et si vous avez envie de vous marrer, il y a un quiz qui s'appelle 40 mètres, les gars, le quiz, qui est co-animé notamment par Christophe Agius, présentateur des émissions de catch sur AB1. Et c'est super drôle, voilà. Et il a fait des quiz manga. Alors lui, il est pas du tout calé en manga, hein, mais ils ont fait des quiz manga, ça c'est.
Est-ce qu'il écorche les noms quand il fait les
sur les quiz ou évidemment. Puis surtout, il se moque beaucoup. Et c'est ça qui est très drôle. Si vous nous découvrez seulement maintenant, sachez que on ne parle pas de podcast habituellement. Non, nous revenons chaque semaine parce qu'on est un podcast hebdomadaire, voire même bi. On est moderne, on est bi-hebdomadaire. Problématique, analyse, top 10, recommandations et découvertes au programme. Scrollez, vous verrez que c'est très varié, qu'on parle essentiellement de manga. Si vous aimez ce qu'on fait, peu importe l'appli sur laquelle vous êtes et sur laquelle vous nous écoutez, mettez-nous une note. Et sinon, vous mettez une note juste sur votre téléphone comme ça. Mais que pour vous. Place maintenant à nos trois mangas de cette émission. Comme la semaine dernière, on pourrait donc évidemment faire une heure sur chacun, mais on va se contenter d'une petite vingtaine de minutes. Attention, je le répète plusieurs fois, ça va spoiler.
Oui,
c'est toujours bon pour la santé, mais voilà, il y a des gens qui sont allergiques, c'est la période des pollens, tout ça. Donc faites attention. Dans l'ordre, on aura Dandadan pour les 20 prochaines minutes, puis A Journey Beyond Heaven dans 20 minutes, et enfin les carnets de l'apothicaire pour terminer cette émission. Je vous laisse compter, Je vous donne pas la réponse tout de suite. Consultez donc le descriptif de l'émission ou le blog ou les réseaux sociaux pour avoir les time codes très précis. On ne perd pas de temps, on fonce sur Dan Dadan de Yukinobu Tatsu, dit Tom, aux éditions Crunchyroll. C'est l'histoire de quoi, Dan Dadan ? C'est une bande de potes du lycée qui se forment peu à peu et qui se retrouvent au milieu d'une guerre entre des yokai et des extraterrestres. Pourquoi ? Parce qu'ils se retrouvent tous avec des pouvoirs assez fantastiques qui aideraient les extraterrestres à envahir la Terre. Pourquoi ? Bah parce que l'un des héros de cette histoire a perdu ses testicules en voulant montrer qu'il en avait. Et il se trouve que ses testicules, ses paloches, elles ont un pouvoir qui dépasserait notre entendement. Oh oui, c'est totalement what the fuck comme pitch, mais c'est une série totalement what the fuck. Mais très blockbuster en même temps, Robin.
Oui, bah moi je me demande si c'est pas on n'a pas affaire en fait au le que Dan Dadan serait le shonen postmoderne. Tu vois, c'est vraiment. Je sais que Cagnard avait parlé un peu de ça dans votre émission sur les pastiches sur ce que c'est que la postmodernité aussi. C'est comment tu t'inscris dans des références, mais tu arrives à créer quelque chose de nouveau à partir de tout ça. Et c'est vrai que plus je le lis, plus je ressens ça avec ce titre, parce que on sent que c'est un titre qui est référencé, mais qui cite jamais vraiment explicitement ses références, sauf quelques exemples près. Bon, bah, il y a le truc de l'eau chaude, évidemment, ça, le personnage qui se ressemble avec l'eau chaude, ça, on a un peu capté la référence, mais sinon, c'est vraiment des petits trucs. Sinon, globalement, on a l'impression de voir un petit peu tout ce qu'il aime, cet auteur, mais sans qu'il cite vraiment directement tout ça, et il arrive à créer... en gros, en tout cas, à mettre toutes ces références comme dans une grosse bassine, quoi, et à créer sa propre soupe à lui, quoi, et ça fonctionne d'enfer.
Bah, tu vois, la référence dont tu parles est celle qui est très clairement affichée, c'est celle de Ranma 1/2. Bah, je trouve que dans les mangas d'aujourd'hui, c'est peut-être celui qui se rapprocherait le plus de Ranma 1/2.
C'est pas faux.
Parce qu'on est sur un fond d'histoire d'amour quand même.
Oui.
Et ça, bah, c'est pas non plus le plus commun dans les mangas d'action. Et j'ai beau chercher, il y en a eu quelques-uns des mangas d'action avec des histoires d'amour. Mais Ranma 1/2, une histoire d'amour. mais Ranma 1/2, bah, c'est ce qui s'en rapprocherait le plus. Et effectivement, bah, on a le truc de l'eau chaude, de l'eau froide. Il y a la référence qui est clairement affichée aussi par le personnage en plus.
Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Et je me suis fait exactement la même réflexion. C'est que. C'est vrai que c'est un shonen de baston, de super pouvoir, d'aventure, tout ce qu'on veut, mais ça reste quand même globalement une comédie romantique. C'est quand même centré autour de la relation entre les deux personnages principaux.
Et ça devient la mode. Hein,
et c'est vrai que tu as vraiment l'impression de voir une espèce de version post-moderne de Ranma 1/2, mais où cette fois, les héros, ils se foutent pas sur la gueule les uns sur les autres. Ils se battent ensemble contre soit une menace commune, soit en tout cas pour aider. Bon, après, oui, voilà, il y en a un qui est un petit peu différent, ce fameux personnage. Mais ils se battent assez peu les uns contre les autres. Quoi. Ils vont un peu créer une ligue de super justiciers ou de super combattants pour affronter une autre menace.
Bon, je redonne la balise spoil, hein, je préfère repréciser. Donc on spoil jusqu'au tome 10, ne vous inquiétez, soyez-en informés. Ils se battent pas contre les autres, si, il y a quand même vraiment le duel de mec, le duel pour l'amour de Momo entre Gigi et Okarun.
En même temps...
Mais les filles aussi, elles se fightent quand même pour attirer l'attention de Kalu.
Oui, mais tu sens qu'au final, ces petits combats-là sont très artificiels, puisqu'au final, on sent bien que cette relation entre Okarun et Momo, elle est vraiment, elle sera pas battue, quoi, malgré toutes les rivalités que tu peux avoir. Et même Gigi, limite, il avoue assez rapidement qu'il est battu, tu vois. Enfin, il y a un truc. En fait, moi, je trouve que il y a un traitement aussi. Ça permet un petit peu de rebondir sur un autre point que je voulais aborder. Mais il y a un traitement des relations amoureuses, amicales dans ce manga qui est vachement frais, quoi. Je trouve qu'il y a un truc super sain. Je sais, quand on en avait parlé au moment où on avait vraiment parlé du début du manga, que ce soit la relation entre Momo et Okarun, mais aussi tous les autres personnages, ils ont une manière hyper saine de gérer leurs interactions sociales, même s'ils ont des problèmes, voilà, parce que c'est des adolescents. Bah, Okarun, il n'arrive pas à livrer ses sentiments, c'est compliqué, nanana et tout. Ça, c'est des codes assez balisés, mais globalement, ils réagissent assez bien aux déconvenus qu'ils ont. Et tu vois, quand Gigi, il se rend compte qu'il est en rivalité amoureuse avec Okarun, ça devient presque un jeu, tu vois. Limite, ils jouent ensemble autour de ça. Il y a presque que Okarun qui prend ça au sérieux, tu vois. Et je trouve que globalement, toute cette manière de concevoir effectivement les relations amoureuses, amicales, Tout ça sonne très frais et très moderne et assez finalement réaliste, puisque c'est vrai qu'à cet âge-là, bah, on est un peu dans ce truc où des fois on est amis, amoureux, on sait pas trop. Enfin, tu vois, quand t'es adolescent, les émotions se bousculent un petit peu, tu vois.
Je suis d'accord avec toi parce que, effectivement, ils en viennent à se prendre la main très vite. Tu vois, on tourne pas autour du pot comme dans beaucoup d'autres mangas. Mais en face, il y a un espèce de petit côté harem que harem manga oui. que l'auteur met. Et là, je me dis, non, mais comment tu peux être d'un côté aussi réaliste, alors réaliste avec des extraterrestres et des yokai, bien évidemment, mais réaliste dans la relation entre ces deux personnages qui sont très what the fuck eux-mêmes, en plus, qui sont pas des personnages qui ont des caractères très, très lambda, et en même temps, mettre du harem en rajoutant des personnages et avec chacun un rôle archétypal assez précis, en plus.
Bah après, moi j'ai envie de te dire, comme c'est un manga qui part de par principe de se moquer de plein de genres d'histoires, donc les histoires avec les extraterrestres, les histoires avec des fantômes, les histoires de romance entre lycéens, bah, le genre harem a toute sa place finalement dans cette espèce d'éventail de pastiches qui est proposé par l'auteur.
Alors pour moi, il n'y a pas de pastiche. Il y a de l'hommage. Mais il n'y a pas de pastiche à part ce fameux Ranma. Mais pour moi, c'est pas comme les mangas dont on parlait dans l'émission Kindergarten Wars il y a deux semaines. Ils se détachent vraiment de cela.
Ouais, je suis un peu d'accord. En même temps, je vois ce que Julie veut dire. C'est qu'effectivement, comme on revient à cette idée de postmodernité, c'est comme il cite plein de choses. Et ben bah, ouais, le harem manga fait partie de ces choses-là.
Ouais,
après, je pense pas que effectivement il y a une volonté de se moquer ou de détourner les codes ou de jouer sur un décalage vis-à-vis de ces gens-là. Je pense que on est plus sur quelque chose de beaucoup plus frontal, premier degré, de voilà, l'aventure avance et ces choses-là s'incorporent dans l'aventure, mais il n'y a pas de...
Mais moi, j'imagine...
Il n'y a pas vraiment de distance, tu vois, ou même
de réflexion. J'imagine bien Yukinobu Tatsu avec son éditeur, avec Shailin, en train de dire « Ah, et puis on pourrait faire ça, ah ouais, c'est trop drôle, et puis on pourrait faire ça, ah ouais, c'est trop drôle. » Et en fait, comme à sa table... Il y a des tas de mangas, j'imagine qu'il y a plein de mangas, dont effectivement des harem mangas, dont des rom-com, dont plein de choses. Bah, c'est comme il s'était à sa table, il les a mangés, il les a digérés, et maintenant il fait ce qui l'amuse parce que ce manga a l'air tellement what the fuck qu'il ne peut faire que ce qui l'amuse, cet auteur, non ?
Ouais, et je pense que c'est un peu pour ça aussi que pour l'instant, le manga est très structuré autour de mini-arcs, et c'est un truc qui lui est quand même pas mal reproché aussi, c'est que bah, tout le monde reconnaît que c'est brillant, que c'est super bien dessiné, tout ça, mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont un peu... qui restent un peu sur leur faim vis-à-vis du fait que ça manque de fil rouge, que pour l'instant, chaque fois, on a des petits arcs de un tome, deux tomes grand maximum.
Il y a un fil doré, la fameuse boule d'or.
Oui, voilà, bon, t'as cette espèce de quête, entre guillemets.
Quête,
voilà. Sinon, c'est vrai qu'il n'y a pas de vrai arc avec un antagoniste qui va rester longtemps, avec des lieutenants, enfin tout ce qu'on veut, tout le truc que t'as l'habitude de voir en chaîne, ça, pour l'instant, c'est pas... J'ai l'impression qu'avec le tome 10, là, ça commence peut-être un petit peu à arriver.
Bah, fin du 9, début du 10, voilà.
Mais on se demande s'il va finalement pas boucler tout ça en un tome.
Et en même temps, tous les combats étaient assez vite expédiés quand même sur un tome. Là, il commence à y avoir un combat à plusieurs niveaux, chose qu'il ne faisait pas avant, c'est assez typique aussi des mangas de combat, plus même des fins d'arc de mangas de combat avec les personnages qui sont séparés tous à un coin et qui ont tous un peu leur affrontement. Et là, il a l'air de faire quelque chose dans cet esprit-là, mais ça ressemble encore à du Dan Dadan, quoi. Ouais.
Non, mais je suis d'accord parce qu'en plus, ce qui ressemblerait à un antagoniste là qui arrive a été un peu introduit, tu vois. Il y a eu quand même une vraie scène où on le montre et tout. Donc ça, bon, là, on se dit, ouais, ok, peut-être que là, ça va commencer à partir dans un truc un peu plus développé. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce côté mini-arc qu'on a ressenti et qu'on a eu jusqu'ici, je pense que c'est lié à ce que tu disais, le truc de « Ah ouais, c'est cool, on va dire que c'est cool, que machin, et puis en plus le perso il ferait ça, et ensuite ça. » Et tout ça donne un sentiment d'une écriture assez instinctive, avec je pense un éditeur qui le suit, qui lui fait confiance, parce qu'en plus... Dans mes souvenirs, c'était un peu le cahier des charges de début, quoi. Shailin lui a dit genre, bah, vas-y, fais le truc que t'as envie de faire, propose-moi un truc. Et je pense que presque l'auteur s'est retrouvé un peu dépassé de dire merde, mais je pensais pas que ça prendrait autant et maintenant je suis pris là-dedans, faut que j'avance.
Faut que je produise des trucs.
Mais tu sais, c'est comme des enfants, comme quand t'es avec des petits enfants de moins de 8 ans et qui racontent une histoire. Ah, et on va dire que en fait, ouais, tu vas faire ça. Eh ben, je l'imagine vraiment comme ça, aussi comme un enfant qui raconte une histoire, sauf que c'est un enfant qui dessine trop, trop bien.
Qui dessine trop bien et qui en plus, pour le coup, se permet de parler de choses aussi assez profondes et pas vraiment enfantines finalement. Bon, peut-être que finalement ça l'est, mais ouais. on est titillé par ça très rapidement. Mais c'est vrai que tu vois, il y a tout ce propos sur la sexualité, évidemment, c'est central dans l'histoire. C'est, encore une fois, c'est la quête du personnage principal, c'est lié à ses parties génitales. Mais je trouve qu'il arrive à, encore une fois, incorporer cet élément-là dans son intrigue de manière vraiment très spontanée et très, très maligne aussi, tu vois, parce qu'au final, il y a évidemment plein d'allusions à la sexualité, même dans certains arcs avec le ver de terre géant qui gerbe un truc blanc. Enfin, tu sais, c'est vraiment... Il y en a partout, tu vois, vraiment. Mais en même temps, c'est suffisamment bien dessiné et bien fait pour que tu trouves ça marrant et que tu te dises pas, ah, c'est lourdingue et tout. Et en même temps, il se permet aussi des fois de parler de la sexualité d'une manière pas du tout positive. Tu vois, genre, il y a vraiment des scènes de tension sexuelle malaisante avec le personnage de Momo quand elle est dans le...
Avec les extraterrestres.
Ouais, déjà dès le chapitre 1. Mais là, je trouve que même quand il y a l'arc où ils vont à la campagne et tout, là, et qu'elle va dans les sources thermales, là, franchement, la scène, elle est vraiment effrayante, quoi.
Elle est effrayante et j'ai même cru que c'était des extraterrestres, en fait.
Ouais, ouais.
C'est cette famille-là. Et je pense que c'était la volonté de l'auteur aussi de refaire vivre ça à Momo. Et nous, en tant que lecteurs, on a en tête la scène du tome 1. Et donc, on se dit, ah, encore des extraterrestres qui arrivent. Ouais. Comme ensuite, elle va dans la maison, elle retrouve cette même famille. On se dit encore, ah, des extraterrestres. Et en fait, non, c'est juste des humains complètement timbrés, quoi.
Ouais,
et
puis
c'est une secte, non ? Enfin, ils sont un petit côté sectaire,
ouais, c'est
une
espèce de famille, secte,
ouais, la famille de Gannibal, quoi.
La colline à des yeux, et trucs, tu vois. Mais, non, mais en plus, tu vois, dans cette scène, dans les sources thermales, il parle carrément de la métaphore du crocodile, tu vois. Ça, c'est un truc qui a été développé, alors en Europe peut-être c'est un choix du traducteur, tu vois, mais vraiment d'assimiler les hommes à des prédateurs, à des crocodiles, c'est un truc qui est signifiant, tu vois, genre vraiment.
Il y a
des
BD qui ont été faites là-dessus.
Exactement, et ça tu vois, ça fait écho à une vraie problématique sociale, enfin voilà, moi, que je trouve assez brillamment traité, parce que c'est mis au milieu de cette espèce de souffle de what the fuck machin. Bah t'as une scène quand même dont tu vas te souvenir, quoi.
Ah, il y en a quelques-unes, mais à chaque fois je suis dans le malaise et en même temps je suis content de la manière dont elle s'en sort à chaque fois, mais je peux pas m'empêcher d'être quand même dans le malaise quand je vois ces scènes là et je me dis, ah non, pas encore.
Et puis tu es sur le fil, quoi, tu dis merde, mais attends, mais à un moment donné ça va mal terminer ou quoi.
Et en fait, c'est un manga rigolo, quoi.
Ouais. Effectivement, à chaque fois elle s'en sort par une pirouette, soit de l'environnement, soit un truc qui va la sauver et tout, mais tu vois, je pense que on sent que l'auteur aime jouer avec ce truc sur le fil du rasoir, quoi.
Mais oui, en fait il y a aussi tout l'aspect légendes urbaines, vieux folklore, enfin tout l'arc de Gigi, enfin c'est quand même assez dramatique, quoi. Et si tu prends un peu de recul et que t'enlèves tout le côté foutraque, t'es quand même face à des problématiques hyper lourde. Et moi, j'aime bien la façon dont il joue beaucoup sur le symbole. Donc, bon, il y a tout la symbolique sexuelle, effectivement. Mais finalement, il parle vraiment à des gens qui ont baigné, finalement, dans des références culturelles qui ne viennent pas de nulle part, quoi. Et donc, il s'interroge un peu sur d'où ça vient, est-ce qu'on peut en faire autre chose. Et je pense qu'il y avait beaucoup de lecteurs, peut-être pas que au Japon, qui misaient sur, comme tu disais, la postmodernité du type. Parce que bon, ok, c'est ses parties génitales, mais bon, il y a tout le côté la virilité, qu'est-ce que c'est d'être un bon copain, un bon mec pour sa copine, pour sa chérie, quoi. Et c'est vrai que dans ce sens-là, moi je suis d'accord avec toi, c'est super frais, mais des fois on se dit, ah, c'est un peu léger, enfin, et on aimerait en avoir un peu plus.
Du titre d'être léger. Je pense que c'est vraiment sa volonté.
Ouais, et puis ça reste un shonen. Si tu dis que c'est adressé à des adolescents, je trouve ça justement bien
c'est vachement
de leur
léger,
amener
par rapport à d'autres trucs.
C'est vachement malin de leur amener aussi ces problématiques de cette manière. Parce qu'effectivement, comme tu dis, le seul truc qui bloque Okarun dans le fait de livrer ses sentiments à Momo, c'est cette espèce de virilité mal placée où à chaque fois il se dit bah non, faut que je lui montre que je suis un vrai mec, alors qu'en fait elle t'es dans sa tête aussi et tu sais qu'en fait elle a pas besoin de ça, elle a juste besoin qu'il lui dise qu'il l'aime, tu vois, et c'est assez frais et malin d'en parler de cette manière là aussi.
Parlons aussi un instant du dessin, parce que là en revanche c'est exceptionnel, il n'y a même pas un petit bémol à apporter. Quoi. Il a un talent pour les postures. Tu sais, ces postures qu'ont les personnages, c'est des postures qu'on dit postures de manga, tu sais, un peu bêtement, mais effectivement, si tu te tiens comme ça dans la vie, tu as l'air d'un débile. La dernière fois, je sors du RER, je vois une fille qui fume une clope comme Onizuka.
Ah oui, mince.
Vous savez,
oh là là.
Et elle avait des espèces d'ongles super grands et tout. Et je me dis, mais non, mais c'est ridicule, tu ne peux pas te... Onizuka a l'air cool, toi, non.
Donc, non, il avait l'air con aussi.
Mais, dans le manga, quand tu sais, tu te dis, on est dans un manga, c'est chouette. Là, c'est pareil. Je trouve que ces personnages prennent des postures stylées qui sont totalement ridicules dans la vraie vie, mais dans le manga, je sais pas, avec son trait, avec cet environnement qu'il met, ça donne un air cool à tous ces personnages, même les plus débilos, quoi.
Ouais, mais en même temps, si on parle du dessin, là, franchement, tout fonctionne, quoi. Il est absolument génial dans tout, parce que là, tu parles des poses, effectivement, où les persos, ils ont un peu du flow et tout. Mais des fois, ils ont des poses de la grand-mère de Momo. Des fois, elle est pas écartée comme ça, elle est pas du tout
classe. Est-ce qu'on peut parler d'une grand-mère, vraiment?
Mais oui, moi. Mais elle est cool aussi, tu vois, genre... en fait, et puis c'est ce qu'on avait dit, je pense, dans l'émission, la première émission qu'on avait fait, mais il y a une générosité dans tout ce qu'il fait, c'est-à-dire que ce soit faire une scène de bataille épique à double page avec des monstres géants, ça va être fait avec toute la compo qu'il faut, le cadrage, la contre-plongée, machin.
T'entends la bande-son, limite.
Ouais, non, mais voilà, il y a une science du cadre et de la force d'évocation du cadre systématique pour toutes les situations, même des situations comiques, même des situations anecdotiques ou du quotidien, il va mettre la même intensité, la même générosité dans tous ses dessins, quoi. C'est assez bluffant, quoi.
Et en plus, Cocorico, dans la piole de Gigi, enfin dans sa maison, il y avait un poster du PSG.
Oui, PSG.
PSG, effectivement. Pour Dan Dadan, je vais pas vous poser la question de à votre avis, il va se passer quoi ensuite?
Parce qu'on peut pas savoir.
Ils vont courir et ils vont se battre.
Ouais.
Et ils vont courir.
Après et il y a probablement des nouveaux persos qui vont arriver dans la maison. Parce que ça, c'est assez marrant aussi comment ils retournent la mécanique de recrutement des personnages. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, ils les recrutent jamais.
C'est eux qui viennent.
Ils s'incrustent dans la baraque, quoi. Ah bah, il y a un nouveau perso.
Ah mais non, c'est qui des parasites?
Ouais. Et à chaque fois, t'as la scène où ils tous ensemble, donc c'est au bout d'un moment, il n'y aura plus de place quoi, autour de la table.
C'est une sorte de teppanyaki électrique, ça avait l'air trop bien aussi à un moment donné dans une scène. Dan Dadan, 10 tomes disponibles, c'est aux éditions Crunchyroll. Et la suite, c'est avec le manga A Journey Beyond Heaven de Masakatsu Ishiguro. Là, on a un tome de moins, c'est sorti il y a un peu plus longtemps.
Oui.
Parce qu'on est qu'à un tome par an désormais pour A Journey Beyond Heaven, donc on attend notre tome chaque année.
Il n'y a qu'un tome paru depuis la dernière fois qu'on en a parlé.
Et j'ai calculé, oui, alors il n'y a qu'un tome paru depuis la dernière fois dont on en a parlé, mais on n'avait pas parlé du tome 8.
Ouais, on avait fait une petite partie
au tome 7 et ça reste le meilleur manga du monde. voilà, achetez-le, lisez-le, surtout commandez-le parce que vos libraires
ils n'ont pas le genre.
Comme ça se vend pas, vos libraires les commandent pas. Donc insistez et faites lire le manga à vos libraires aussi pour qu'ils le recommandent. Journey Beyond Heaven, si jamais ça arrive et vous entendez pour la première fois le nom de ce manga dans cette émission, de quoi ça parle? Bien, c'est l'histoire, attention je vais spoiler, c'est l'histoire d'élèves de tout âge dans un centre de recherche isolé qui subissent des manipulations génétiques et qui vont se retrouver face à un cataclysme. Mais dans ce manga, il y a une double narration. Et en parallèle, c'est aussi l'histoire de deux personnages en pleine errance, 15 ans après la dite catastrophe, qui sont à la recherche de ce qu'ils appellent le paradis, dans un futur désolé où tous les dangers sont possibles. Cette double narration, elle est toujours stylée quand même.
Ouais, mais là, ça y est, on voit que les branches, elles commencent à se rapprocher, quoi.
Enfin, tout doucement.
Ouais, tout doucement. Mais on a de plus en plus d'éléments qui rendent. Enfin, comment dire, qui facilitent la compréhension d'un univers vers l'autre. En tout cas, je pense au tome 7. Je pense que ça, c'est à ce moment-là que ça commence vraiment à se décanter. Et c'est. Enfin, moi, je suis bluffée. Enfin, je trouvais que c'est. On avait pressenti plein de choses pour ce titre-là. Et bah, les promesses, elles sont toujours là. On est toujours envieux, on a envie de connaître la suite. C'est vrai que c'est trop rageant qu'on soit à un tome par an parce qu'il va falloir ronger son frein. Mais ce qui est bien avec cette série, c'est que tu peux relire toute la série dès le tome 1 et tu trouveras toujours des nouveaux éléments, des indices que tu avais oubliés ou des choses qui finalement font sens une fois que tu as pris connaissance des titres les plus récents, quoi.
Bah c'est comme le duo, effectivement, ils rencontrent tellement de gens
oui.
qu'on peut oublier parce qu'ils sont là pour servir le scénario.
Ouais.
Ils ne font pas, enfin, ils font partie de l'univers, mais c'est des gens lambda dans un monde désolé, quoi. C'est des survivants.
Oui, mais en fait, je pense que c'était toi qui avais commencé déjà dès les premiers tomes à regarder tous les indices, notamment les dates, les horaires.
Ouais, mais maintenant on a tout, on sait.
Oui, mais bon, il a fallu un petit temps et je pense que c'est quand même agréable de refaire le chemin quand tu. Voilà, quand t'es en attendant la suite. Et en plus, bon, à partir donc des derniers tomes, tome 7, 8, on comprend aussi que certains ont changé d'identité. Qu'il y a des noms qui ont. Enfin, des gens qui ont. Des persos qui ont changé de nom. Donc, forcément, ça. Enfin, peut-être qu'en relisant, tu retrouves des. Comment dire. Ils sont mentionnés sans que tu le saches vraiment, quoi.
C'est vrai, c'est vrai. Et puis, il y a surtout cet élément énorme. On n'a rien dans le tome 9 à son sujet. C'est la vieille quand elle. Quand elle revient dans le corps de la jeune.
Wow.
Qu'est-ce qu'elle devient? Qu'est-ce qu'elle va faire?
Ouais. Et elle est trop flippante, en fait. Enfin, quand, les derniers jours, déjà, en tant que vieille...
Ouais, déjà, en tant que vieille, elle était flippante.
Non, mais quand tu relis les passages, tu dis « Mais trop dégueu, quoi
!» Mais surtout qu'en plus, tu découvres que son mari, il est encore vivant au tome 9. Ouais. Donc, elle aurait pu être, elle aussi, encore vivante si elle avait eu un peu de bonté d'âme. Je sais pas.
Ouais, non, c'est clair qu'elle est pourrie jusqu'à l'os. Enfin, pardon. Mais je sais pas, j'ai pas envie de me focaliser sur ce perso parce que c'est ça qui est incroyable avec ce titre, c'est qu'il y a vraiment énormément de personnages, effectivement. Et tu as tout. C'est-à-dire, tu as le pire comme le meilleur. Et il y a vraiment des gens qui ont les deux facettes en eux. Et c'est terrible. C'est terrifiant pour les héros qui se retrouvent parfois sans savoir à qui ils ont affaire. Est-ce que ça va être un allié? Est-ce que ça va être un adversaire? Est-ce que ça va être un danger pour eux de continuer à fréquenter cette personne-là? Et c'est vrai que, comme tu disais, la fin du monde, oui, ça doit ressembler à quelque chose comme ça, quoi. Enfin, où on ne sait jamais où on va, ce qu'on va trouver et comment on va s'en sortir.
Robin, t'es toujours convaincu par cette double narration? Parce que c'est quelque chose qui t'avait bien marqué, toi, au début de la lecture du manga.
Ouais, ouais, carrément. Mais, et en fait, c'est intéressant ce que disait Julie sur le fait que tu peux relire la série et avoir des nouvelles choses à découvrir. Parce qu'au final, je trouve que ce qui est frappant dans cette série, c'est qu'il y a une vraie fluidité du récit. En fait, tout coule. Mmh. Alors que pourtant, on peut dire que l'auteur s'est pas vraiment facilité la tâche avec cette double narration. Vous parlez des personnages qui changent de nom. Enfin, il y a plein d'éléments qui sont vraiment des espèces de petits grains de sel qui viennent se mettre et tout, mais malgré tout il arrive à nous faire tenir tout ça, je pense, parce que il maîtrise assez bien ce procédé de double narration. Il y a ce système de créer de l'ironie dramatique chez le lecteur deux fois, puisque à chaque fois tu as des informations que tu as sur les autres personnages que les personnages eux-mêmes n'ont pas. Et ce qui fait qu'il y a certains moments dans le récit, je trouve, où il y a des révélations qui pourraient artificiellement être très dramatique, tu vois, dans le tome 9, quand il y a le médecin qui donne l'identité de la mère et des parents de Maru, tu vois, ça devrait être un événement genre putain, mais voilà, c'est tes parents, c'est eux, mais tu sais pas qui c'est. Et tu sais, vraiment, lui, il réagit en mode oui, bah, de toute façon, mes parents, je les connais pas, quoi. Et alors que toi, t'es là, mais putain, tu sais, quoi. Et genre, vraiment, ça c'est vraiment un truc que j'ai pas souvent eu l'occasion de ressentir en lisant des mangas, tu vois, ce truc de savoir quelque chose que
le héros sait pas.
Voilà, en fait, il sait, mais il a pas conscience de ce que ça veut dire, tu vois. Et ça, c'est un truc, pour le coup, qui est toujours aussi bien réussi. Et malgré tout, effectivement, tu peux relire et avoir plein de nouveaux détails, plein de choses qui peuvent te permettre de faire travailler ton imaginaire, etc. Et puis là, en plus, au tome 9, hein, si j'ai bien capté, il y a carrément une espèce de troisième timeline qui s'intègre dans tout ça, parce que le tome commence par une espèce de flash-forward. Enfin, en tout cas, une scène qui arrive à un moment où on n'a pas tellement compris à quel moment ça se passe, tu vois, parce qu'au final...
Poursuivre l'évolution des enfants. En fait, je le vois pas tant comme une troisième timeline, mais comme une prolongation de la première timeline d'il y a 15 ans.
Ouais, mais
qui est un peu entrecoupée, effectivement.
Qui est entrecoupée, ouais, qui est en plusieurs étapes.
Parce que du coup, maintenant, ça inverse les rapports, parce qu'avant... Au bout d'un moment, on comprend que en fait, l'histoire des enfants se passe avant l'histoire de Malou. Et puis maintenant, bah, ça se chevauche. Ouais. Ou alors, c'est carrément des trucs qui sont après. Donc là, ça va être intéressant. Et là, je trouve que, pour le coup, c'est vachement malin de sa part. Parce que ça, c'était un risque de se dire, à partir du moment où on a compris justement ces deux timelines, comment elles se placent l'une par rapport à l'autre, ça va devenir chiant. Parce qu'au final, le passé va moins nous intéresser. Maintenant, on veut savoir comment ça va avancer, tu vois. Et bah, hop, il inverse les trucs. Donc, du coup, voilà. Maintenant, on est tenu pour lire la suite.
Et dans les tomes 8 et 9, il y a une information qui est cruciale. Parce qu'on parle de John Abbey and Evan comme un manga post-apocalyptique, un manga de science-fiction. Sauf que ça se passe à notre époque.
Ouais.
Donc, rendez-vous le 12 novembre 2024 pour vérifier si on est vivant ou pas. Parce que ça serait la date.
Oui. Du cataclysme.
Du cataclysme. Et le cataclysme, par où il tombe ? Coucou, c'est par ici.
Oui, c'est vrai.
Le Japon est assez tranquille. Donc, c'est par ici.
Il y a des répercussions.
Il y a des répercussions, mais ça va, ils sont encore vivants. Nous, non. Donc, rendez-vous le 12 novembre. Le 12 novembre, c'est un mardi. Il y aura la sortie ici. Vous entendez une cinquième de couve le 12 novembre. C'est que Journée Bien-Aimée est une œuvre de fiction. Et que ce n'est pas une prophétisation de l'avenir de la planète Terre.
Heureusement.
Non, mais c'est bon, c'est bon à avoir en tête, tu vois, on ne sait pas, ça se trouve.
Bah après, lisez-le dès maintenant, comme ça vous aurez des tips de survie si jamais.
Exactement.
Parce qu'il y a quand même pas mal de bonnes trouvailles.
Mais du coup, c'est d'autant plus mystérieux de se dire d'où viennent les avancées technologiques qu'il y a dans ce monde-là, puisque ça reste plus avancé que nous sur plein de
Robin, on nous cache tout.
C'est les reptiliens, ça. Non, ça, ils sont dans Dundadan, il y a un reptilien.
Oui, c'est vrai. Et ça se croise, en fait.
Oui, mais c'est un reptilien de l'espace, c'est pas pareil. Ouais. Les bons reptiliens, ils sont dans Doctor Who. Il faut le noter. Moi, le truc que j'adore aussi dans la façon dont continue Journey Beyond Heaven aujourd'hui, et là, je vais faire appel à votre mémoire, puisque ça me fait penser en partie à Psyrene.
Oh là là.
C'est comment les enfants de l'école deviennent grands et quel pouvoir ils développent en grandissant et quel pouvoir ils cultivent. Et donc, je pense notamment à la petite avec les lunettes de soleil, Oma. Il est trop bien son pouvoir de... c'est un pouvoir de Senseiya, tu vois. Elle peut faire rentrer les gens dans des cauchemars brefs et intenses. Et c'est super utile, ça, quand même.
Ouais, et c'est utile. Et en plus, je trouve que visuellement, c'est super fort, quoi. Enfin, graphiquement, quand elle l'utilise, notamment dans le tome 9, sur la nana qui arrive sur la scène de ensanglanté là, tu vois, genre même toi en tant que lecteur, t'es en train de te dire, oh là, Utor, il se passe quoi là, elle tombe dans un trou, je comprends pas. Et donc vraiment,
ça marche bien.
Il y a des bonnes trouvailles aussi graphiques à ce niveau là quoi.
Et c'est dommage d'avoir libéré, on va dire, Taka et d'avoir d'avoir supprimé quelques, enfin, ils suppriment des enfants et c'est dommage parce que
après,
alors, on les retire pas tous.
Pas, hein.
Ouais, en plus, tu sais pas, ils ont juste dit on ne pourra rien pouvoir faire pour le garçon, si ça se trouve, il va s'en sortir.
C'est mais ils vont tous se transformer en monstres.
Ouais, puis c'est
on le voit bien à la fin du tome 9, la petite qui est dans la mer, elle se transforme en monstre, non?
Ça ressemble à ça, mais je sais pas, on verra. Mais après, moi, je trouve que c'est toujours intéressant. Enfin, pour rebondir sur ce que tu disais juste à l'instant, n'oublions pas que c'est une histoire où les gens peuvent. Et s'échanger les cerveaux. Enfin,
oui.
donc tout est possible.
Qui c'est ça.
Mais je suis très contente aussi pour le côté mystique, finalement, qu'on avait un peu débroussaillé et qui continue finalement de faire comme une espèce de fil rouge, parce que effectivement ça ouvre sur tout le délire autour des sectes, autour de qu'est-ce qu'on croit quand il n'y a plus rien, à qui on accorde sa confiance, comment est-ce qu'on fait groupe, on fait communauté autour de valeurs qu'on partage ou pas, et comment les gens peuvent trahir aussi. C'est,
ouais, les croyances peuvent être instrumentalisées aussi.
Complètement. Et j'aime bien tout cet aspect qui est très actuel. Enfin, on avait toujours dit que c'était quelque chose, oui, et qui parlait de notre génération, enfin, de notre génération, oui, et de notre société, finalement, de la période actuelle. Et ça se confirme quand même au fur et à mesure des livres.
La naïveté a un super rôle dans ce manga, parce qu'elle est présente à plein de moments. Maru, il est d'une naïveté
confondante,
exactement.
De moins en moins, quand même.
De moins en moins, c'est vrai. Tous ces individus qui rentrent dans des sectes, qui pensent que les gens sont partis dans une navette spatiale et qui vont atterrir sur cet aéroport et qui les attendent impatiemment pour leur péter la gueule.
Ah ouais, c'est
un projet de vie, mais ils sont d'une naïveté aussi assez incroyable. Les enfants, quand ils arrivent dans ce monde post-apocalyptique,
bah, ils comprennent rien.
Ils comprennent rien. Ils sont aussi d'une naïveté de post-apocalyptisation assez effroyable, assez incroyable. Et pourtant, on voit qu'ils réussissent à survivre.
Ouais. Bah, ils ont des capacités pour aussi.
Ils ont des capacités pour.
Ouais,
c'est
mais il y
sûr.
En a qui ne les ont pas et qui réussissent à survivre aussi. Enfin, ouais. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait penser. Aussi à la sexualité finalement, parce qu'il y a beaucoup d'allusions qui sont faites soit à la façon dont c'est sacralisé ou soit à la façon dont c'est complètement oublié, comme tu parlais tout à l'heure de la naïveté de Maru et qui des fois est complètement démunie face à ça. Enfin, c'est un exemple parmi d'autres, hein. Mais je trouve que c'est ça aussi qui est très intéressant par rapport à l'utilisation de ces références religieuses liées au shintoïsme à travers les noms des personnages ou des symboles qui sont utilisés dans le manga, parce que c'est une question finalement qui est fondatrice, quoi, vraiment au sens même premier du terme. Voilà, il y a masculin, féminin, et ça donne des descendants, ça donne des enfants, et on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver au bout de la chaîne, surtout dans un univers comme ça où tout est chamboulé de façon presque artificielle, quoi.
Bah, je sais pas si il a envie de donner un rôle au genre ou au non, ou au non-genre, parce que c'est vrai que c'est quand même très présent malgré tout dans le manga. C'est toujours là, parce qu'en plus nous ça nous surprend, on vient d'une société où les genres sont, même si bien heureusement on évolue, mais où les genres sont assez fixes. Là on se retrouve quand même avec Kiruko qui est un garçon dans le cerveau d'un garçon dans le corps d'une fille. On se retrouve avec des persos comme Michika et comme beaucoup d'autres enfants qui a priori ont tous les deux sexes en même temps.
Oui, mais parce qu'il y a une dimension divine, presque assez au fait d'avoir les deux, de représenter les deux et de pouvoir utiliser, puiser dans les deux au moment où tu en as besoin. Et ça, c'est vrai que c'est perturbant, mais je pense que... Enfin, alors ça, c'est vraiment un avis hyper personnel, mais je pense que l'occidentalisation du Japon a forcé le Japon à trouver des nouvelles représentations du masculin et du féminin, là où, pendant des années, des millénaires presque, ils avaient leur mythologie, leur croyance, leur représentation. Et puis là, on leur a... par exemple, pour l'histoire de la nudité qui a été un peu explorée par des sociologues occidentaux aussi bien que japonais, on sait très bien que c'est pas du tout la même chose qu'au 19e siècle en Europe et au 19e siècle en Asie, et au Japon particulièrement. Il y avait différentes façons d'appréhender les corps et donc les questions du féminin, du masculin. Et là, finalement, il arrive à puiser dans ça et de s'en servir de façon très habile. Parce que ça nous interroge, surtout à une époque où justement on se demande est-ce qu'il y a des choses qui seraient intrinsèquement féminines ou masculines. Et j'aime bien dans un pays qui est toujours pointé du doigt pour sa vision conservatrice de ce que devrait être le rôle d'une mère, le rôle d'un père, etc. J'aime bien le fait qu'il remue un peu tout ça, tu vois.
disons qu'il fait, il fait de tout ça une réalité concrète. On l'avait déjà dit, c'est qu'en gros, là, tu peux penser ce que tu veux de tous ces concepts sur les identités de genre et tout. Bah dans cette œuvre-là, si tu la lis, c'est une réalité physique et concrète, quoi. Donc, tu n'as pas le choix de faire avec, quoi. Et ça, je pense, permet aussi à plein de gens qui soit ne s'intéressent pas à ces sujets-là, soit c'est très accessoire dans leur logiciel de pensée. Bah ça permet peut-être aussi d'ouvrir leur pensée sur tout ça.
Et c'est suffisamment bien fait pour que ça ne te fasse pas la morale ou que ça te donne l'impression de te faire la morale.
Exactement. Oui. Y a pas de...
Et je trouve que c'est toujours réussi dans ces cas-là quand tu mets des éléments sociétaux comme ça. Sans faire la morale et à réussir à les mettre dans un récit qui plus est de science-fiction comme celui-ci, je trouve que c'est particulièrement réussi dans A Journey Beyond Heaven. Et encore une fois, je comprends toujours pas pourquoi on n'est pas plus nombreux à le lire, quoi.
Mais on le saura, on va grandir. Ouais.
Moi, je pense qu'il y a quand même une explication, mais malgré tout, c'est aussi ce qui fait que je l'aime bien. Mais à mon avis, le dessin est quand même assez vintage, trop vintage, je pense.
Peut-être un peu trop vintage.
Franchement, ça m'a frappé quand j'ai lu les derniers tomes. Je sais pas, j'ai eu une espèce de révélation mystique. J'ai vu du Katsuhiro Otomo dans les chara-design et tout, dans cette façon, dans cette ligne claire. C'est un peu un truc d'une autre époque, tu vois, de voilà,
c'est
de
très
caractériser
détaillé.
Les persos. Oui. Enfin, pas forcément détaillé, mais il y a une espèce de soin à justement de la ligne claire, je dirais. Je sais pas comment l'expliquer plus simplement que ça, mais différemment. Mais genre vraiment, ouais, je sais pas, le tome 9, quand je l'ai lu, j'ai eu cette espèce de flash. Je me suis dit, non, mais oui, il y a du Otomo, c'est clair.
Et puis surtout, réécouter notre émission, l'émission qu'on a fait à Japan Expo sur un petit déj au mois de juillet de l'année dernière, puisqu'on était avec l'éditeur de Journey Beyond Heaven en train de boire des cafés, de manger des croissants. Et ça, c'était quand même chouette.
C'était super sympa.
Ouais. Et là, on a un peu deux mangas des deux Tanto All-Star. Là, il y a lui et Shailene.
Ouais, c'est vrai.
Dan, c'est un peu les rivaux.
Journey Beyond Heaven, 9 tomes sont disponibles en France aujourd'hui. Le dernier est sorti le 21 février. Dernier, il est disponible, c'est le tome 9. Et la suite, on ne sait pas. Il est sorti au Japon.
Oui.
Il est sorti au Japon.
Oui, au printemps, je crois.
Il arrivera donc en France l'année prochaine.
Voilà. À bientôt.
Voilà, allez, à dans un an, salut. La suite de cette émission, c'est avec un dernier manga qui s'appelle Les Carnets de l'apothicaire de Neko Kurage et Itsuki Nanao, dessinatrice storyboardeuse, d'après l'œuvre, le roman de Natsu Yuga. Ça fait 12 tomes aujourd'hui en France et l'histoire, c'est celle de Mao Mao, une jeune fille passionnée d'herboristerie, servante dans un palais lointain qui résout des mystères, des enquêtes et des crimes dans la cour de l'empereur. C'est la meilleure inspectrice du moment, je pense, Julie.
Ah ouais. Non, mais c'est super. Enfin, je sais pas comment dire, parce que on en avait parlé quand même un petit peu. Hein, les carnets de l'apothicaire, ça nous avait tout de suite plu, dès les premiers
temps. Ça nous avait plu, mais finalement, on n'est pas tant revenu dessus que ça, parce que le fil rouge s'épaissit, soit, et au bout de 12 tomes, c'est bien comme le premier tome, en fait. Je sais pas comment l'expliquer autrement.
Y a une constance.
Ouais, c'est ouais. Ça.
Les dessins sont toujours aussi magnifiques, les histoires, mais parce que je pense elles sont tirées d'un roman et que du coup, ça apporte une assise indéniable.
Tu peux
elles
s'avouent.
Voilà, complètement. Et effectivement, cette version-là donc, est vraiment très, très prenante. J'aimais bien l'idée que les mystères soient pas non plus, enfin comment dire, tout n'est pas ne devient pas d'une clarté comment dire éblouissante à tous les coups.
Les intrigues, tu veux dire?
Oui, je veux dire les enquêtes se suivent, parfois elles interagissent les unes avec les autres, et ça tu l'apprends par exemple plusieurs tomes après. Enfin, il y a des choses qui font sens vraiment une fois que les lectures est approfondie, quoi. Et je trouve que c'est, comment dire, comme il y a un des personnages qui dit non, mais toutes les vérités sont pas à dire, enfin même pas bonnes à dire, c'est juste il y a des choses qui doivent rester cachées, qui doivent rester dans l'intimité de certaines alcôves, et c'est vrai que ça traite de ça, et c'est délicat parce que voilà, comment raconter une histoire où t'as pas comment dire, tu peux pas forcément brandir comment dire, braquer un énorme spot et dire voilà, toute la vérité, toute la lumière est faite sur tel ou tel mystère. Au contraire, il faut que ça reste mystérieux, il faut que ça reste changeant, instable, on ne sait pas trop finalement.
Et c'est la grande difficulté du rôle de Mao Mao, parce que d'une, elle est de basse classe, alors même si son père se révèle être quelqu'un d'un petit peu connu, mais elle doit révéler des mystères qui ne doivent pas être révélés. Voilà. Il y a des choses qu'elle doit dire, mais pas à tout le monde. Des enquêtes qu'elle doit résoudre, mais elle peut pas non plus dire « Et voilà ce qui s'est passé !»
Non, parce que sinon, en plus, elle risque de mettre dans l'embarras certaines personnes et elle veut pas porter cette responsabilité-là. C'est marrant aussi, oui, tout le rapport à la responsabilité. Parce que c'est quelqu'un qui est très intelligent, Mao, mais...
Et qui est très responsable tout court, ouais, globalement.
Mais elle veut pas se mouiller ou elle a la flemme. Des fois, elle veut pas prendre le risque d'éveiller trop de curiosité chez certaines personnes. Elle veut... éviter qu'on lui pose des questions, que certaines choses qui ne la concernent pas soient révélées. Donc c'est vraiment très étonnant, quoi.
Mais parce que elle veut pas aussi se retrouver dans l'embarras, parce que si elle révélait certains éléments, ouais, elle se retrouverait elle potentiellement en danger. Et finalement, c'est sa propre survie qu'elle protège en gardant certains secrets, non ?
Bah, oui, non. Alors ça, je crois que c'est au tome 6 ou 8. Très vite, tu te rends compte que finalement, sa vie est très vite mise en danger. Elle a pas trop de, comment dire, de garantie que elle va s'en sortir. Même dès le tome 1, il y a des passages où elle dit oula, je tiens à ma tête, je vais pas dire ça. Enfin,
elle sait se préserver parce que il y a un moment donné, elle allait plus loin dans certaines enquêtes. Elle pourrait se retrouver en danger.
Oui, mais je me suis un peu mal exprimée. Je pense que même si elle est consciente de tout ça, elle sait aussi que finalement, la conclusion ne lui revient pas. C'est-à-dire que si quelqu'un l'accuse et qu'elle n'a aucun moyen de se défendre, elle sera un pion sur un échiquier. Et puis,
reste une servante.
Ah ouais, c'est super angoissant quand même comme système, environnement de vie, quoi. Mais,
ce que j'aime bien aussi, c'est qu'elle monte les échelons quand même peu à peu. C'est-à-dire qu'elle ne devient pas enquêtrice parce qu'elle est servante, elle ne peut pas devenir enquêtrice. De toute façon, ça n'existe pas, enquêtrice, non, dans ce palais imaginaire, de cette cour imaginaire, de ce pays imaginaire. Mais elle grimpe les échelons petit à petit, elle devient servante plus, quoi.
Oui, et puis...
Avec plus de liberté, surtout.
Ouais, puis je ne sais pas comment dire, mais j'ai l'impression qu'elle est... comme elle est maligne, et elle est aussi entourée de gens qui sont malins à leur... À leur façon. C'est ça aussi qui est très charmant dans ce manga, c'est qu'il te montre aussi différentes façons d'avoir des cordes à ton arc, de bien savoir t'en servir, de jouer sur les rivalités entre personnes importantes pour tirer profit de certaines choses. Et en fait, comment elle est... je sais pas, parce que elle a pas vraiment d'ambition, si ce n'est de terminer son contrat à la cour intérieure, enfin de base, et finalement après elle sera employée par d'autres personnes. Mais l'idée c'est, le travail c'est la priorité numéro un, quoi. Et du coup elle devient très hermétique à toutes sortes de choses qui se passent autour d'elle.
C'est marrant que tu dises ça parce qu'effectivement dans tous les mangas dont on parle, alors sauf pour Dan Dan d'ailleurs, il y a des enjeux super importants, mais là, avec elle, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de quête, il n'y a pas de fil rouge. Sauf que c'est suffisamment bien écrit pour que l'enjeu, ça soit sa survie à elle, la survie des gens qui l'entourent, parce que tout le monde peut un peu disparaître du jour au lendemain. Au mieux, quand on a un homme, se faire castrer, ce qui arrive à son père, son père adoptif. Et c'était le mieux de la peine qu'il pouvait avoir. Donc le danger, il est quand même toujours un peu présent, quoi.
Oui, et puis en fait, je ne sais pas comment dire, ça fait partie de ces mangas qui sont donc dans une autre mentalité que la nôtre. C'est bête de dire ça, hein, c'est très bateau, mais là on est dans un royaume, dans un empire, il y a une personne qui détient tous les pouvoirs, et on n'est pas, c'est très loin de notre réalité républicaine très malmenée parfois, mais c'est ça, des fois il faut se mettre en tête qu'on est dans un système très hiérarchique, en plus très inspiré de la Chine impériale, avec donc tout un système de codes de couleurs, de codes, de symboles. Il y a des pierres qui représentent des maisons ou des clans ou des gynécées, parce que donc il y a tout un, il y a des concubines, il y a plusieurs femmes qui sont voilà à disposition de l'empereur et elles se tirent dans les pattes. Il y en a qui voient leurs enfants mourir, il y en a qui voient leur plan détourné par leur servante qui finalement bossait pour une autre. Enfin, il y a tout ce comment dire micmac de complots de cours qui finalement a existé. Hein, je pense que historiquement, c'est des choses qu'on peut retrouver dans des archives de pays qui ont connu la royauté ou l'impérialisme. Enfin, alors, oui, je dis un gros mot là, pardon. Mais qui ont connu le pouvoir représenté par une seule personne qui était toute puissante. Chose qui, de nos jours, nous semble vraiment très exotique, j'ai envie de te dire.
Et alors, tout ce que tu dis, tout ce qu'on dit depuis le début, ça me fait penser à quelque chose qu'on a évoqué la semaine dernière dans l'émission lorsqu'on parlait de Asadora. Quand on parlait de Asadora, on disait Asadora, le feuilleton manga. Alors là, avec les carnets de l'apothicaire, on est sur un autre feuilleton également, mais on est vraiment sur du feuilleton manga aussi.
La costume.
C'est Chroniques de Bridgerton en vachement mieux, quoi.
Ouais, et puis après.
Sans les soirées mondaines, parce qu'il y a toujours des soirées mondaines dans les Chroniques de Bridgerton.
Ah, mais là, il y en a un peu, il y a des banquets, des trucs un peu.
Ouais, mais c'est pas aussi mondain.
Ah, c'est parce que t'as pas les codes. C'est juste que. Je pense que c'est un peu. C'était l'équivalent. Mais moi, ça me fait rire aussi de voir, comment dire, notre sélection des trois tomes d'aujourd'hui, parce qu'il y a quand même, encore une fois, la question de la sexualité dans les carnets de la boutique.
Alors, justement, on y vient. Tome 12, voilà. La grenouille.
Non, mais ça, c'est
tu formidable. L'avais compris avant ou pas? Moi, j'avais des doutes, mais je me suis dit non, mais peut-être j'ai pas des vrais doutes.
Non, moi, je pense que j'avais pas de trop de doutes à ce niveau-là. Junchi, il est entier, on va dire. Mais je trouvais que c'était quand même rigolo de jouer à ce point-là sur les représentations de... Parce que c'est pas un manga qui, à la base, raconte les histoires de fesses, quoi.
Ouais. Vraiment, vous écoutez sans connaître la série, là, c'est... La grenouille, alors. La grenouille, oui, non, mais moi, je pensais que...
Oui,
je projette plein de choses.
Est-ce que
la grenouille, c'est ce qu'on a entre les jambes, Robin.
Voilà.
Le garçon, le maître, le maître qu'elle sert est censé être eunuque.
Ah, donc il n'a plus de grenouille.
Et il n'a plus de grenouille.
Normalement.
Et dans le tome 12, elle met la main et elle découvre une grenouille dans une scène assez incroyable, pleine de sensualité, dans une grotte, une cascade.
Ça, c'est très Bridgerton pour le coup.
Ça, c'est très, très Bridgerton. Et non, mais en plus, la scène est marrante. Tout est marrant parce qu'en plus, on est sur un moment où lui, il a failli se faire assassiner. Et on est toujours dans cet esprit d'intrigue à la cour qui marche très, très bien et qui emmène sur des sous-histoires qui donnent toujours un peu de plaisir à la lecture.
Ouais, et puis en fait, pour revenir à ce que tu demandais tout à l'heure, finalement, le fil rouge, c'est pas tant Mao Mao, c'est juste le trou de la serrure par laquelle tu découvres l'histoire. Et je pense que le fil rouge, finalement, c'est tout ce qui concerne Jinshi.
Et l'Empire
et les histoires de succession sur une ou deux générations et qui là depuis le tome 11-12 là prennent vraiment de l'ampleur et c'est cool d'avoir un peu plus de révélations.
Mais alors, attends, du coup tu me mets le doute, Jinshi.
Oui.
Est-ce que c'est parce que j'ai imaginé ou on a appris qu'il était le frère de l'empereur ou c'est juste moi dans ma tête?
Non, je pense qu'en fait c'est dit sans être dit parce que c'est quand même la thématique principale, le procédé principal du manga. Mais au tome 11, tu découvres en plus qui est sa mère. T'as pas de doute.
Oui, j'ai eu un moment au moment où on en parlait, je me suis dit, attends, mince, est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce que je l'ai juste imaginé simplement? Parce que c'est vraiment le genre de manga...
Sinon, on l'a imaginé ensemble.
C'est vraiment le genre de manga où en plus tu projettes, tu imagines plein de choses parce que, comme tu le dis, on dit sans le dire, on ne t'explique pas les choses. Par exemple, tu prends Dan Dadan, le début, tu as la galerie de personnages, le résumé de l'histoire. Tu prends Journey Beyond Heaven, tu prends plein d'autres mangas, tu as la liste des personnages, le résumé... Tu prends les carnets de l'apothicaire.
Ah, il n'y a pas.
tu as un visuel double page.
Il y a des jolis visuels.
Des très jolis visuels, des très jolies couves, des très jolis visuels couleurs, mais on te donne pas toute cette info. Oui. Et moi, il y a un autre truc qui m'étonne avec cette série, c'est qu'elle existe en double. Ah bah. Il y a les carnets de l'apothicaire chez Kihoon et les carnets de l'apothicaire chez Mana Books. Je suis assez surpris de voir que bah, finalement, l'autre série, la deuxième, qui est sortie plus tard, fonctionne pas aussi bien.
Oui.
Alors que c'est la même histoire.
Bah moi ce qui m'a enfin après ce qui m'avait interpellé c'est que ils avaient quand même gardé le même chara design parce que enfin il y a quelqu'un qui a fait les chara design pour les romans, pour les light novels et les deux personnes à qui on a confié les mangas ont conservé la plupart des traits caractéristiques des personnages. Bah écoute, je pense qu'il y a des gens qui par curiosité ont voulu avoir les deux pour comparer quoi, c'est tout bête de
ouais, mais...
au moins savoir.
Tu pourrais avoir envie plus de l'un, plus de l'autre. Je sais pas ce qui fait que celui-ci marche mieux que si ce n'est qu'il arrivait avant.
Bah écoute, moi j'aime beaucoup celui-là parce que effectivement il est arrivé avant et puis au niveau des dessins, je suis quand même plus à l'aise. Je trouve qu'il y a une certaine fluidité. Les dessins sont vraiment très soignés, alors que j'ai eu moins cette impression en feuilletant la deuxième série.
Et alors, est-ce que tu serais déçu si à la toute fin, Jinchi ne finissait pas en couple avec Mao Mao ?
Mais elle est capable de lui dire non. Hein. Après, je sais pas.
Non, mais on serait déçu, non ?
Bien sûr qu'on serait déçu, mais elle a l'air assez, assez bouchée.
Ouais, mais tu sais, genre,
puisqu'elle a grandi
elle lui
quand
fait
même...
la gueule pendant 10 ans, et puis finalement, après, ils se retrouvent, je sais pas.
Oui,
j'invente,
mais bon,
hein.
C'est quand même
que les romans sont sortis au Japon, donc l'histoire existe
oui,
en plus. Hein.
Oui,
mais c'est quand même quelqu'un qui a grandi dans un bordel, donc je veux dire, enfin, littéralement. Elle ne sait pas ce que c'est que l'amour non payé, ouais voilà, enfin le sentiment amoureux pur qui n'est pas maltraité pour être pour qu'on te tire le maximum dessous. Ça, elle ne connaît pas.
Donc voilà, si je disais que Dan Dadan c'était le Ranma en demi des années 2020, les carnets de l'apothicaire, c'est le détective Conan des années 2020.
Le lifting.
Un gros lifting.
Extrême.
Ouais, mais en vrai, moi, ce qui me retient, c'est quand même énormément les enquêtes, quoi.
Oui, parce qu'elles sont bien faites, elles sont intéressantes. Il y a toujours des petites astuces à savoir, et il y a oui tout ce dé, enfin cette thématique autour du savoir vraiment, le savoir médical, le savoir médicinal autour des plantes, savoir lire, savoir écrire, c'est des choses qui reviennent finalement par petites touches à travers tous les tomes. Pour que, oui, pour dire, bah, c'est important que les gens soient éduqués, que les personnages sachent lire ou pas, ça joue beaucoup sur la façon de les manipuler, jouer sur leur crédibilité, leur crédulité. Des fois, on leur montre des jolies choses scintillantes au loin dans la nuit et ils croient que c'est des fantômes. Enfin, voilà, et il faut dire non, il y a des phénomènes qui peuvent s'expliquer, il y a des techniques. Moi, je trouve l'enquête sur les trois frères orfèvres incroyable.
C'est vrai qu'elle était très bien.
Était très bien.
Vous trouvez ça donc dans les carnets de l'apothicaire. 12 tomes sont disponibles aux éditions Kihoon. 10 tomes sont disponibles aux éditions Crunchyroll pour Dan Dadan. 9 tomes aux éditions Pika pour Journey Beyond Heaven. Merci de nous avoir tous écoutés. La semaine prochaine, vous savez de quoi on parle ?
Dis-nous tout.
Eh bien, on parle de Jojo's Bizarre Adventure.
Oh,
évidemment,
Jojo's.
L'arc 3, ça sera donc mardi prochain. Merci de nous avoir écoutés. Bonne semaine à vous. Ciao. Salut.
Ciao.
Salut.